La parabole des dix vierges, ou des vierges sages et des vierges folles en Matthieu 25, est bien compliquée et je me suis cassé les dents sur cette parabole depuis des années et des années. La base, on a à peu près l'idée de ce dont il s'agit, parce que dans toute la Bible, la relation entre l'homme et Dieu est comparée à la relation entre un époux et sa fiancée. Donc a priori, l'époux qui vient dans la nuit, c'est Dieu ou c'est le Christ. Là, j'ai pas de souci. Après, ce texte est compliqué parce que, en effet, les vierges sages, comme on dit, qui sont a priori exemplaires, refusent de prêter leur huile aux autres, ce qui est absolument pas sympathique. Et puis d'autre part, quand les folles reviennent, donc Jésus les envoie balader en disant « je ne vous connais pas », et là aussi, c'est très curieux. Alors, l'explication que j'ai donnée depuis des décennies, je crois qu'elle était fausse, pour tout vous dire. En fait, mon idée, c'était de dire que si les vierges sages ne refusent de donner leur huile aux autres, c'est que, en fait, cette huile représente la foi, l'expérience spirituelle. Et on ne peut pas donner à un autre la foi que l'on a construite par des moments ou des années de prière, de recherche de Dieu et tout ça. Je ne le sais que trop bien. J'aimerais donner la foi à mes catéchumènes, leur donner comme ça mon huile, mais non, je ne peux pas. Je peux juste leur dire, écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner la foi. Et donc cette huile qu'avaient les vierges sages, elles ne pouvaient pas la donner parce que juste la foi ne se transmet pas et donc chacun doit travailler sa foi pour lui-même. Donc allez, débrouillez-vous pour aller en acheter. Bon, mais cela dit, cette explication sympathique que j'ai donnée, pas entièrement fausse, ne convient pas, avouez-le. Pourquoi ? Parce que dans notre texte, les vierges sages ne disent pas « je suis désolé, mais je ne peux pas prêter ma foi, je ne peux pas, j'aimerais, mais je ne peux pas ». Elles ne disent pas ça du tout. Elles disent, les vieilles vaches, « non, on ne veut pas vous en donner, parce qu'il n'y en aurait alors pas assez pour nous et pour vous ». Pourtant, si je donne de ma foi, je ne perds pas la mienne. Quand je donne de l'amour, je ne suis pas moins aimé pour autant. Donc l'explication, la raison pour laquelle les vierges sages refusent de donner leur huile, invalide totalement ce que je vous ai prêché, je vous demande pardon. Et puis d'autre part, ces histoires de vierges sages et des vierges folles, moi j'ai quand même, finalement je ne comprends pas. En fait, ces jeunes femmes seraient des jeunes femmes qui cherchent à s'unir à l'époux. Mais alors cette image de l'époux qui viendrait au milieu de la nuit, comme ça n'importe quand, pour s'unir avec dix vierges, écoutez, alors, Dieu serait polygame. Puis cette espèce de façon de débarquer, de dire voilà, moi je vais faire une sorte de partouze avec dix vierges en même temps, enfin, c'est absolument impossible. Donc non, ces explications qu'on lit partout ne vont pas. Il faut trouver autre chose. La question que je me pose, c'est finalement qui sont ces jeunes femmes. Alors là, j'ai lu des livres quand même et qui m'ont expliqué comment se passaient les mariages à l'époque. En fait, l'époux épousait une épouse, donc sa fiancée. Ensuite, il faisait un grand banquet de noces, une fête. Et dans cette fête étaient invitées des jeunes filles d'honneur, c'est-à-dire en gros les témoins des épouses, quoi, les témoins de l'épouse ou des amis. Et donc des jeunes filles d'honneur qui sont invitées à faire la fête avec les époux, mais pas du tout pour s'unir à lui. Donc autrement dit, ces jeunes filles ne vont pas rentrer dans le banquet pour coucher avec l'époux, mais elles viennent simplement pour participer à la joie de l'époux qui épouse son épouse d'une façon unique. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Admettons. Mais alors dans ce cas, le problème c'est, mais alors où est l'épouse dans l'affaire ? J'ai un époux, j'ai les jeunes filles d'honneur, d'accord, elles sont 10, pourquoi pas. Mais où est l'épouse? On n'en parle pas. Et là, si vous avez déjà écouté Florence prêcher sur les noces de Cana, elle vous l'a expliqué. C'est que dans les textes bibliques, quand il manque un personnage, eh bien l'idée c'est que probablement que ce personnage qui manque, c'est vous. C'est le lecteur en quelque sorte. On a la même chose dans les noces de Cana au début de Jean. Vous savez, il y a l'époux, ils n'ont plus de vin, Jésus change l'eau en vin. Tout ça, c'est très bien, mais il n'y a pas d'épouse. Parce que l'épouse, c'est le lecteur, c'est vous. Et donc, c'est vous qui êtes invité à vous unir au Christ. Et autrement dit, voilà, l'épouse, c'est le lecteur, c'est vous qui lisez ce texte, et nous sommes invités à nous unir à Dieu dans une joie extraordinaire, dans une relation qui est une relation de joie, de félicité, et qui se partage avec les autres. Mais alors, qui sont encore maintenant, qui sont ces vierges, ces 10 vierges, qui sont si nombreuses et qui donc ne sont pas l'épouse? Ces vierges, il y a deux solutions. La première à laquelle j'ai pensé, c'est encore une fausse piste. Désolé, je vous donne plus de mauvaises explications que de bonnes, mais bon, je déblaye le terrain. La première à laquelle j'ai pensé, c'est que ces jeunes filles sont, par rapport à moi, les autres croyants, celles qu'on appelle dans l'Ancien Testament les filles de Sion, ou dans le Cantique des Cantiques, la fiancée qui dit son amour pour le fiancé, donc l'humain pour Dieu, appelle les jeunes filles de Jérusalem en disant « Venez, réjouissez-vous avec moi ». Et donc ça pourrait être ça. Les jeunes femmes sont invitées à venir se réjouir avec l'époux et l'épouse. Donc autrement dit, moi je suis l'épouse, Dieu ou le Christ est l'époux. J'ai cette joie extraordinaire d'avoir rencontré le Christ et je dis à tout le monde « Venez vous réjouir avec moi ». Jusque-là, ça va assez bien. Mais ça colle pas trop avec le texte lui-même, parce que ça voudrait dire en fait que je donne comme rôle aux autres croyants juste celui de tenir la chandelle. C'est-à-dire, écoutez, moi je suis très heureux, admirez mon bonheur, voilà, c'est formidable, n'est-ce pas? Vous êtes content que je sois content? Enfin, ça va pas, ça ne convient pas trop. Et puis, que penser de ceux qui, à ce moment-là, refuseraient de participer à cette joie? Alors, on les envoie dans l'obscurité, je ne vous connais pas, dégagez, infâme. Ça aussi, c'est quand même pas très normal. Donc, cette solution ne va pas, à mon avis, ou pas pleinement. Alors, j'ai une autre idée, voilà, c'était ça mon idée. Je vous dis, l'idée géniale que l'on cherche depuis 2000 ans, c'est la suivante. C'est, est-ce que ces jeunes femmes, ces 10 vierges, ne seraient pas les différents aspects de notre vie? C'est-à-dire que dans ma vie, il y a des tas de dimensions. Il y en a une qui est la dimension religieuse et mystique, d'accord? C'est celle par laquelle je découvre le Christ, je découvre Dieu, et dans ma foi, je suis heureux, ça change ma vie, ça l'illumine. Et les autres jeunes filles, ce sont tous les autres aspects de ma vie. Parce que dans ma vie, il n'y a pas que la foi, il n'y a pas que la prière, et je ne passe pas mon temps sur les bancs du culte. Parce que dans ma vie, il y a d'autres choses. Il y a aussi mon travail, il y a aussi mes loisirs, il y a aussi ma famille, il y a mes amis, il y a mes vacances, il y a, je ne sais pas, ma santé, enfin tout. J'ai plein d'autres sujets de préoccupation dans ma vie. Et le but de cette histoire, ce serait donc de dire, vous pouvez associer à cette joie de votre rencontre avec Dieu toutes les autres dimensions de votre vie pour qu'elles puissent participer à cette joie et que votre expérience spirituelle, si je puis dire, ne reste pas uniquement dans le domaine du spirituel. En effet, il y a dans cette histoire un événement fondateur, c'est l'époux et l'épouse, c'est-à-dire l'union mystique qui précède l'histoire. En fait, l'époux épouse l'épouse, l'époux épouse l'épouse, et puis ensuite il vient inviter les autres à participer à la fête. Donc à la base, il y a cette rencontre dont on ne parle pas là, mais qui est imaginée en quelque sorte. Cette union mystique, c'est pour moi l'expérience religieuse, c'est-à-dire la découverte de Dieu ou de la joie de la prière ou l'enthousiasme de la lecture d'un texte ou la découverte d'une dimension spirituelle dans ma vie ou d'une vie communautaire ou d'une espérance qui me redynamise, qui me remet en marche. Donc il y a une expérience mystique, une expérience religieuse, et là ce serait une invitation à ce que cette expérience religieuse ne reste pas cloisonnée dans le domaine du religieux, mais vienne illuminer tous les aspects de ma vie, que tout dans ma vie participe à la joie de cette noce. Et ça n'est pas évident parce que souvent les chrétiens ont eu tendance à séparer les deux. en disant il y a la joie spirituelle et puis après il y a la vie matérielle et concrète. Alors là, c'est compliqué, c'est difficile, mais bon, donc le dimanche, je suis heureux, j'entends des belles paroles et toute la semaine, je rame. Mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, on a expliqué que Dieu n'était pas nécessairement dans le travail, dans la sexualité, dans les plaisirs, dans les loisirs. Eh bien, ce n'est pas ce que dit ce texte, à mon avis. Et au contraire, il dit, vous pouvez convoquer à la joie de la relation à Dieu toutes les dimensions de votre vie, toutes, les plus grandes comme les plus modestes. Alors, admettons, mais pourquoi l'époux vient-il dans la nuit quand on ne l'attend pas? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est parce qu'il vient après s'être uni à la fiancée. Donc, les jeunes filles, sont convoquées pour participer à cette joie. Et je vous l'ai dit, c'est que précédait donc à cette affaire une union mystique. Revenons là-dessus. Cette expérience spirituelle qui est la base de l'affaire, qui peut être grande ou petite. Elle peut être grande, et certains l'ont expérimentée comme ça, comme une conversion radicale, comme une découverte profonde qui illumine toute une vie. Il y a effectivement un certain nombre de personnes qui expérimentent la relation à Dieu comme quelque chose de bouleversant, un rayonnement qui change la vie, qui bouleverse tout. Ça, c'est la grande expérience religieuse, mais il y en a d'autres, et ça n'est pas sans valeur, au contraire, qui peuvent faire une expérience religieuse plus fugace, comme tout à coup un moment béni où on découvre, où on se sent en phase avec Dieu, un moment tout à coup on a une idée de la transcendance, un moment béni où on se sent en phase avec soi-même, avec le monde. Et il y a des moments comme ça, peut-être éclairs, qui sont des moments de lumière, si vous voulez, où ce peut être aussi l'enthousiasme tout à coup de lire un texte, de trouver un psaume, un texte biblique, un verset, on dit « Ah, là, il y a quelque chose ». Voilà, cette espèce de joie flash, si vous voulez, qui illumine un instant. Bon, et la question, c'est donc comment faire en sorte pour que ce moment d'illumination rayonne et convoque toutes les dimensions de ma vie et pour que en moi, tout se réjouisse au nom du Seigneur. Eh bien, c'est la question de ce texte. Alors, le texte nous dit, il faut faire deux choses. Il faut veiller, et puis veiller, dans d'autres textes aussi, on dit, il faut veiller et prier. Prier, oui, sûrement, parce que prier, c'est pas de réclamer des choses à Dieu, mais prier, c'est le mode de communication avec Dieu. Prier, c'est convoquer Dieu, c'est l'appeler. Si vous appelez l'époux à venir vers vous, il viendra plus facilement. Prier, c'est même très concrètement donner une place, je dirais, dans son agenda pour la relation à Dieu. Bon, c'est ce que vous faites si vous êtes venu au culte ou si vous l'écoutez. C'est-à-dire que vous, en fait, il y a une sorte d'incarnation de la relation à Dieu qui vient s'incarner dans votre vie réelle. Et prier, c'est ça, c'est se dire, je prends un temps que je consacre à Dieu, en fait. Donc, je fais venir Dieu dans ma vie. C'est absolument essentiel. Et puis, veiller, alors, ça, j'aime cette idée aussi. Veiller, c'est être disponible. Être disponible par rapport à une expérience ou savoir reconnaître et accueillir la grâce quand elle se présente, ou savoir reconnaître et accueillir les moments de chance. Parce que, de même qu'on ne peut pas se forcer à être amoureux, en quelque sorte, c'est difficile aussi de convoquer Dieu de force dans sa vie, si vous voulez. On ne peut pas se dire, tel jour, telle heure, je veux avoir une expérience illuminante de ma relation à Dieu dans ma vie. Mais il y a une sorte de disponibilité spirituelle et mentale qui est justement d'être en attente et d'être capable de reconnaître et de recevoir ces moments qui se présentent, souvent au moment où on l'attend le moins. Alors c'est vrai aussi dans la vie profane et concrète, ce que je dis ne concerne pas que la vie religieuse. Dans la vie profane, si vous n'étiez pas croyant ou si vous ne l'êtes pas, on appelle ça la chance. la chance. En fait, je crois que les personnes chanceuses n'existent pas. Il n'y a pas de gens qui ont plus de chance que d'autres. Mais la chance, c'est qu'il y a des gens qui savent attraper les chances quand elles se présentent, si vous voulez, qui savent attraper la chance quand elle passe. Et c'est ceux-là qui sont les gens chanceux, qui savent reconnaître même les chances qu'ils ont. Et il y a tant de gens qui ont des tas de chances dans leur vie et qui les laissent passer parce qu'ils sont incapables de s'adapter, de changer leur emploi du temps ou de s'en saisir, ou de juste avoir un esprit qui accueille la chance quand elle se présente. Or, le problème de la chance, et ça je vous en parle en connaissance de cause, et vous, je pense que vous pourrez aussi le dire que vous l'avez expérimenté, c'est que la chance se présente en général quand on au moment inopportun. C'est-à-dire, la chance, c'est quelque chose qui vient bouleverser nos projets, bouleverser notre tranquillité, qui nous force à changer nos plans, parce qu'on avait bien tout organisé, et puis il y a quelque chose, une opportunité qui arrive, et est-ce qu'on est capable, à ce moment-là, de saisir cette opportunité et de dire, eh ben, ok, très bien, là, il y a quelque chose de formidable, je m'y accroche, et j'y accroche toute ma vie. C'est ça. L'époux vient, est-ce que je suis capable de me réveiller, de dire l'époux est là, eh bien, ok, je vais rentrer dans la salle du banquet de noces avec toutes mes 10 vierges. Heureux celui qui est capable, effectivement, là, de se lever et d'accueillir la chance. Et pour cela, il faut veiller. Et je crois que c'est une attitude juste dans la vie d'être perpétuellement en veille, d'avoir les yeux ouverts, d'être capable d'accueillir, de recevoir, de reconnaître ce qui se profile comme étant une chance et de s'en saisir pour la mettre en soi et y aller. Alors au départ, effectivement, les chances sont parfois des choses momentanées, parcellaires, et nous pouvons les accueillir et convoquer tout notre être pour aller à leur suite. Si je transpose ça dans la vie spirituelle, eh bien, je crois que c'est un peu la même chose. Comment arriver à gérer la durée de l'enthousiasme de la découverte du spirituel? Comment arriver à gérer la durée de la conversion de l'expérience spirituelle, grande ou même petite? Comment faire en sorte que cela continue de faire du bien pour ma vie? Je vous dis ça parce que, évidemment, j'ai l'expérience, depuis que je suis pasteur, de personnes qui, d'une façon spectaculaire, mais c'est vrai aussi pour des petites choses, qui à un moment donné découvrent la foi, s'enthousiasment, et puis en fait on les voit ici au culte, à toutes les réunions pendant 6 mois, 1 an, et puis après, pouf, disparaissent. Bon, je culpabilise rien, ni personne, peut-être parce que nous n'avons pas su entretenir, encourager, nourrir, je ne sais pas, mais c'est aussi qu'il y a toujours ce risque de la foi feu de paille. Il y a tout à coup une grande lumière et puis pouf, ça redescend et on retombe dans sa vie normale parce que la foi, on croit que ça va changer notre vie et en fait, ça ne change pas toujours toute la vie de la minute même. Et donc, comment faire en sorte pour que, si c'est un grand feu, ça illumine toute sa vie et s'il y a un moment donné une étincelle de lumière que je sens, comment faire en sorte que cette étincelle éclaire ma vie ? Pour faire quelque chose de durable et de construit. Alors, quand l'époux revient, effectivement, c'est ce qu'il fait. Il invite toutes les jeunes filles à venir avec lui. Donc, je vous l'ai dit, ce que nous pouvons faire, c'est essayer de saisir cet instant béni d'une relation positive avec Dieu, où on expérimente quelque chose que l'on reconnaît comme joyeux et bon, et pour en faire, non pas la relation d'un instant, un aspect de ma vie, mais pour en faire une salle des fêtes dans laquelle j'arrive à convoquer l'ensemble de mon existence et que cette expérience n'illumine pas que la zone de mon cerveau qui est en relation avec Dieu, mais que ça rende festif toute ma vie et que j'arrive à y associer dans ma vie tous les éléments de mon existence, du soir au matin, de mon travail, jusque dans mes loisirs, de mes relations à ceux que j'aime, jusqu'à mes relations à mes ennemis. Comment est-ce que ce moment de découverte, cette lumière d'un texte, d'une relation à Dieu, de quelque chose, comment est-ce que j'arrive à le rendre présent dans tous les aspects de ma vie? Pour ça, je vous l'ai dit, il faut d'abord être disponible, reconnaître ces instants, rendre grâce, capitaliser dessus et les enraciner, donc pour que ça devienne, que tout soit invité dans cette fête. Et donc les jeunes filles sont toutes ces dimensions, on dit qu'elles sont toutes là à attendre, et on dit, le texte nous dit que toutes s'endormirent. Oui, ça, elles n'auraient pas dû. Jésus dit bien, veillez, mais elles s'endorment toutes. Ça, c'est pour vous rassurer. Vous allez, vous dites finalement, c'est vrai, peut-être que je ne suis pas assez disponible. Écoutez, dans la parabole déjà, on dit que toutes, elles s'endorment. Donc si vous vous endormez de temps en temps, il n'y a pas du tout de culpabilité. Parce qu'on ne peut pas être toujours en veille de tout, je l'admets. On s'habitue, on s'endort s'endort dans ses routines, dans ses habitudes, et finalement, voilà. Bon, donc, ce texte-là, c'est le premier point, mais il va y en avoir plein d'autres, à mon avis, cherche à nous déculpabiliser dans notre relation à Dieu. Donc, toutes s'endorment, pas de souci. Ça vous arrive aussi, moi aussi. Certaines, nous dit-on, sont sages. Alors, sages, dans le texte, il y a phronimos, qui veut dire pas sage, mais veut dire intelligent. Certaines sont intelligentes. Elles avaient des lampes, toutes avaient des lampes d'ailleurs, mais certaines les ont laissées s'éteindre ou n'avaient pas de quoi les entretenir. Que représentent ces lampes? Ça, je sais, facile. Psaume 119, verset 105. Je me vante parce que c'est la seule référence biblique que je connaisse par cœur. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et donc oui, la lampe, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on appelle parole de Dieu, ce n'est pas dicté par Dieu, mais c'est cette parole qui a été incarnée en Jésus-Christ et qui nous a été transmise dans l'Évangile. Et donc, nous avons effectivement cette parole qui sont les lampes. Et l'important, c'est d'avoir du carburant pour nourrir cette parole, donc cette lecture spirituelle de la Bible. Et je pense qu'un bon moyen pour entretenir la flamme, c'est justement de ne pas rester juste sur le bon souvenir d'une expérience momentanée, mais d'instruire cette expérience par la lecture de la Bible, par la réflexion sur l'Écriture, par la méditation, par l'interrogation et toutes ces choses-là. Alors certaines avaient de l'huile pas loin, elles étaient disponibles à cette bénédiction, et certaines n'en avaient pas. Alors arrivons-en à ces vierges folles, donc pas sages, qui n'avaient pas d'huile et qui se font mettre dehors. En fait, je pense que ce texte ne nous présente pas une méchanceté des bonnes vierges qui refuseraient de partager. Ça ne colle pas. Tout l'Évangile nous invite à partager, bon, jusqu'à être plus démunis de tout. Et donc ce côté de celles qui disent « on ne peut pas parce qu'il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous », il faut le comprendre autrement. Je le comprends de la façon suivante, en disant « on ne peut pas vouloir vraiment tout éclairer dans sa vie. Je vous ai dit, il faut que tout soit rempli de la joie de Dieu, du matin au soir, du soir au matin, de tout ce que vous faites, de vos loisirs à votre travail, de vos amis à vos ennemis. Oui, mais en même temps, justement, ce texte nous déculpabilise et il dit « je vous préviens à l'avance, vous n'arriverez jamais à ce que toute votre vie soit illuminée par Dieu ». Enfin, je vous le souhaite, hein, mais en tout cas, dans du temps de Jésus, il y en a la moitié qui y arrive. Et donc, nous n'arriverons pas à vouloir que tout soit illuminé. Et donc, il nous faut une certaine modestie, si vous voulez, et se dire, le but de ma foi, ce n'est pas que toute ma vie soit transformée dans tout son ensemble, mais déjà, si la moitié de ma vie est transformée, ce sera déjà formidable. Et parfois, à vouloir trop, eh bien, on risque de tout perdre, c'est ça. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Et donc, concentrons-nous déjà sur les parties de notre vie que nous arrivons à associer à Dieu, à l'Évangile, à la foi, à notre engagement. Et contentons-nous déjà de bien faire ces parties-là avant de vouloir tout faire et finalement de se décourager en se disant « j'y arrive pas ». C'est ça. Il n'y aurait pas assez d'huile pour tout le monde, donc gardez l'huile pour les meilleures parts de vous-même. Et ne cherchez pas à être capable de tout faire à la fois. Déjà, illuminer les parts les plus proches de Dieu, les plus pleines d'huile de la lampe, celles-là, on les fait entrer dans la joie du Seigneur. Et s'il y en a qui n'y arrivent pas, Eh bien, c'est pas grave, c'est prévu par le texte. Déjà, vous avez vu dans la parabole, on sait, il y en a 5 sur 10 qui n'y arrivent pas. Donc, s'il y a une partie de vous qui n'y arrive pas, c'est pas très grave, c'est prévu. Alors, aux parties de notre vie que nous n'arrivons pas à faire entrer dans la joie du Seigneur, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, elles disent, allez chez le marchand pour en acheter de l'huile. Ça veut dire, ne désarmez pas quand même, ou ne vous découragez pas. Si vous n'arrivez pas à ce que votre foi illumine toute votre vie, ça n'est pas grave. Et quand il dit aller chez le marchand, c'est pas pour les envoyer balader, mais c'est juste un bon conseil pour dire il y a quand même une solution pour qu'à l'avenir, les choses s'améliorent. La solution, c'est de se donner un peu de mal, de se déplacer, d'aller demander à ceux qui ont de l'huile à revendre, le pasteur par exemple, voilà moi, je suis un marchand d'huile, et il y en a d'autres, le prêtre ou des gens, des croyants, des livres de théologie, je ne sais pas, il y a des gens qui savent donner de l'huile pour illuminer votre lampe, pour l'entretenir, donc faites ça, travaillez à rallumer votre lampe. Et après, elles reviennent, ces vierges folles, elles trouvent la porte close. Ça encore, l'interprétation brutale ne fonctionne pas. Et l'idée que Dieu exclut quiconque vienne à lui est impossible. Jésus a dit d'ailleurs, « Je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi ». Donc évidemment que ce n'est pas pour dire que Dieu pourrait nous fermer la porte, mais c'est encore une fois pour nous déculpabiliser. Peut-être que vous allez tout bien faire. Vous allez voir les grands spécialistes de la religion, de la foi, de la théologie. Vous revenez en disant « cette fois, je vais y arriver, ça va changer ma vie » et paf, porte fermée. Qui n'a pas expérimenté ça? La prière, on s'adresse à un mur. Dieu, on attend une réponse, on n'en a pas. Et donc, c'est justement, une fois de plus, pour nous déculpabiliser. Bien sûr, Dieu toujours nous accueille, mais nous aussi, parfois, on tombe face à une porte close et on n'y arrive pas. Et donc, c'est prévu, voilà, c'est au programme, donc si ça vous arrive une fois de plus, c'est prévu, on le sait. Et donc, effectivement, ne croyez pas que vous allez pouvoir immédiatement faire entrer toutes vos jeunes filles d'honneur dans le banquet des noces, il y en a certaines qui n'y arrivent pas, et ça c'est arrivé à tous. Donc, soyez modestes, n'en veuillez pas trop. C'est ce que dit Paul d'ailleurs en Romains 12, 3 quand il dit « J'invite tout le monde à être assez raisonnable, assez humble pour ne pas avoir de prétentions excessives, mais que chacun se contente de la part de foi qui lui a été donnée. » Et donc soyez assez humble pour ne pas avoir de prétentions excessives. Les prétentions excessives dans le domaine de la foi risquent juste de nous décourager. Mais n'ayez pas peur, le Fils de l'homme, l'époux, reviendra. Tiens, ça me plaît parce que, vous savez, dans beaucoup d'églises, on parle du retour du Christ. Et bon, je ne suis pas très client de l'idée d'une fin du monde où Jésus revient pour juger je ne sais pas qui, mais par contre, l'idée d'un retour permanent du Christ, ça me parle. Parce qu'effectivement, parfois, le Christ s'est éloigné de moi ou d'une partie de ma vie. Et parfois, je trouve cette porte close et je me dis, c'est raté. Non, l'époux, il reviendra la nuit prochaine ou à un autre moment. Et l'époux revient à chaque fois. Jamais Jésus n'est parti loin de nous. Il revient et chaque fois, une nouvelle chance peut se présenter. De nouveau, la grâce peut venir toucher mon existence, peut venir la frotter. Et chaque fois que la chance se présente, chaque fois que la grâce n'est pas loin, eh bien que je sache, moi, être capable d'accueillir cette chance ou cette grâce comme une joie fondamentale pour pouvoir faire entrer dans cette chance unique de ma joie, de ma relation à Dieu, tout le reste de ma vie. Et donc l'époux revient, toujours au moment inopportun évidemment, mais il reviendra. Et donc je sache moi, ensuite, progressivement et à chaque fois, faire entrer l'une après l'autre, chacune de ces jeunes filles qui sont toutes les parts de mon existence et que je puisse progressivement à chaque fois faire entrer une petite vierge de plus dans le banquet des noces jusqu'à ce que toute la noce soit complète et que la fête soit absolue. Amen.
Mm-hmm.